Chapitre 51. Lorsque Nietzsche émergea d'entre deux colonnes rouges pour passer dans le grand hall d'entrée, la tête que tira Anna valut vraiment son pesant de cacahuètes. Si elle n'avait pas été vidée par son dialogue avec Richard, la magicienne aurait sûrement éclaté de rire. Le prophète était très vieux, certes, mais très loin d'avoir l'air d'Hécati. Grand, large d'épaule, il arborait une longue crinière blanche des plus élégantes. Bref, il semblait assez puissant pour tordre une barre de fer et sans même avoir recours à son don. Nietzsche fut particulièrement frappé par son regard hypnotique. Ce n'était pas un râle pour rien, décidément.
« Sœur Nietzsche !»
souffla Anna. Elle n'ajouta pas « ravie de te revoir » ni une autre formule courtoise classique. Stupéfiée de rencontrer une ancienne résidente du palais des prophètes, Anna semblait incapable de réfléchir clairement. Nietzsche se demanda comment elle avait pu être si impressionnée par cette petite femme plutôt boulotte. Mais au palais, les sœurs et les novices passaient souvent de longs mois sans apercevoir la dame abbesse. L'absence ajoutait une aura de mystère aux gens, c'était bien connu.
« Dame abbesse, je suis contente de vous voir en bonne forme, surtout après avoir assisté à vos poignantes funérailles. »
Nietzsche fit un clin d'œil malicieux à Richard.
« Si j'ai bien compris, tout le monde vous croit morte. C'est fou ce qu'un bon bûcher funéraire peut influencer les gens. »
Richard eut un petit sourire complice. Debout, non loin de la fontaine, Zed dévisagea Nietzsche sans dissimuler sa perplexité. Il avait saisi l'allusion à la ruse d'Anna, un excellent moyen de partir en mission avec Nathan à l'insu de tous, mais l'insolence de la magicienne l'étonnait un peu.
« Je n'aime pas mentir, mon enfant, mais c'était nécessaire. Avec toutes ces sœurs de l'obscurité infiltrées parmi nous. »
Anna regarda du coin de l'œil Zed, Richard et Kara.
« Considérant tes compagnons, très chers, je déduis que tu as changé de camp. Sache que j'en suis enchanté. Dans mes prières, je remercierai le Créateur d'être intervenu pour sauver ton âme. »
Nietzsche croisa les mains dans son dos.
« Le Créateur n'y est pour rien, désolé de vous l'apprendre. Pendant que je gaspillais ma vie au service de Sansu, il devait être trop occupé pour s'inquiéter. Et lorsque de saints hommes affirmaient que mon devoir était de servir, de me soumettre et de tuer les infidèles, il devait sûrement regarder ailleurs et écouter d'autres conversations. Et selon vous, que pensait-il quand certains de ces champions les plus zélés abusaient de mon corps ? Mais c'est terminé. Richard m'a appris à vivre pour moi-même, et j'ai retenu la leçon. Au fait, il n'y a plus de sœur Nietzsche, que ce soit au service de la lumière ou de l'obscurité. Pareillement, la maîtresse de la mort et la reine esclave n'existent plus. Il n'y a plus que Nietzsche désormais, que ça vous plaise ou non. »
Anna s'empourpra d'indignation.
« Une sœur est une sœur. Puisque tu as renié le gardien, un exploit remarquable, te voilà de nouveau au service de la lumière. Il n'est pas question de te laisser oublier tes vœux, car... Si le Créateur est mécontent qu'il le dise ici et maintenant !»
cria Nietzsche. Dans un silence de mort, elle regarda autour d'elle comme si le Créateur avait pu se cacher derrière une colonne attendant le moment propice pour sortir et faire connaître ses capricieuses volontés.
« Pas d'objection divine ?»
La magicienne sourit de toutes ses dents.
« Eh bien, puisque c'est ainsi, Nietzsche est adjugé, dirait-on. »«
Je ne tolérerai pas !»
commença Anna.
« Assez, femme !»
ordonna Nathan.
« Nous avons des choses importantes à faire, vraiment importantes, je veux dire. Je n'ai pas voyagé jusqu'ici pour entendre une dame abbesse défunte faire un sermon à une sœur de l'obscurité repentie. »
Nietzsche fut surprise d'entendre la voix de la raison sortir de la bouche du prophète. Avait-elle accordé trop de crédit à des rumeurs? Ce vieil homme paraissait très sensé.
« Je suppose que tu as raison, »
capitula Anna.
« Nietzsche, je suis sur les nerfs ces derniers temps et je te prie de bien vouloir m'excuser. »
« Je vous pardonne de bon cœur, dame Abbesse. »
« Anna, je t'en prie. La dame Abbesse, c'est Verna désormais. Ne perds pas de vue que je suis morte, cher enfant. »
« Je m'en souviendrai, Anna. »
« Verna est un très bon choix.
Sœur Cécilia disait souvent qu'il n'y avait aucun espoir de la rallier à la cause du gardien.
« Un jour, quand nous aurons un peu de temps, j'aimerais en apprendre plus sur Cécilia et les anciennes formatrices de Richard. »
Anna eut un soupir agacé.
« Je soupçonnais que ces cinq femmes et toi étiez toutes des sœurs de l'obscurité, mais je n'en ai jamais eu la preuve.
« Je vous dirai tout ce que je sais, Anna. » En insistant sur les survivantes, bien sûr. Liliana et Mérissa ont quitté ce monde.
Richard profita du silence qui suivit cette déclaration pour s'adresser à Tom.
« Comment va ma sœur ? »
demanda-t-il. Nietzsche capta le message. Estimant qu'il écoutait depuis assez longtemps, le sourcier signalait qu'il entendait passer à la suite.
« Elle se porte très bien, Seigneur Rall, »
répondit le colosse blond.
« Parfait.
Nathan, quel mauvais vent t'amène? Car si tu es ici, c'est que quelque chose va mal, pas vrai ?»«
Tout va de travers, mon garçon. Nous sommes venus plus particulièrement pour parler des perturbations dans les prophéties. »
Richard se détendit nettement.
« Eh bien, sur ce sujet, j'ai peur de ne rien pouvoir pour vous. »«
Ça, c'est encore à démontrer, »
fit Nathan volontairement énigmatique.
« Laissez-moi deviner, »
fit Zed en avançant vers les deux nouveaux arrivants.
« Vous êtes là à cause des blancs dans les recueils de prophéties ?»«
En plein dans le mille, premier sorcier !»
lança Nathan. Pour être sûr de les avoir bien comprises, Nietzsche dut se répéter mentalement les paroles de Zed.
« Quel blanc ?» demanda Richard. « De quoi parlez-vous ? »
« Dans tous les ouvrages, » « Il manque des paragraphes, voire des pages entières, »
répondit Nathan.
« Nous avons consulté Verna, et il s'avère que les recueils de prédictions au Palais du Peuple ont subi les mêmes mutilations. C'est très inquiétant. Du coup, Anna et moi sommes venus voir si les exemplaires conservés à la forteresse sont toujours intacts. »«
Désolé, » intervint Zed, « mais la réponse est négative. » Nos grimoires aussi ont été altérés.
Par les esprits du bien,
murmura Nathan.
Nous espérions que ces livres-là n'auraient pas souffert.
Doit-on comprendre que le texte des prophéties a partiellement disparu?
Demanda Richard.
C'est exactement ça,
confirma Nathan.
Avez-vous trouvé une logique à ces disparitions?
Nietzsche devina que Richard tentait de faire le lien avec ce qui était prétendument arrivé à sa femme. En temps normal, elle aurait été furieuse qu'il en revienne sans cesse à son obsession, mais dans ces circonstances très particulières, elle se réjouissait de voir qu'il redevenait peu à peu le bon vieux Richard qu'elle appréciait tant.
Un point commun, en tout cas. Toutes les prophéties touchées concernent des événements postérieurs à ta naissance.
Le sourcier écarquilla les yeux.
Et de quoi traitent toutes ces prédictions? Sont-elles reliées à des événements précis ou n'ont-elles en commun que cette coïncidence chronologique?
Nathan se massa pensivement le menton.
C'est le plus étrange dans cette affaire. Anna et moi devrions nous souvenir du texte intégral de ces prophéties, mais il s'est effacé de notre mémoire. Exactement comme l'encre sur le parchemin des grimoires. Pas un mot ne nous revient en mémoire. Ne sachant pas de quoi traitaient ces textes, je ne peux rien te dire, mon garçon. Anna et moi avons conscience qu'il manque quelque chose, c'est tout.
Richard interrogea Nietzsche du regard, se demandant si elle avait fait le lien avec la disparition de Callan. Voyant l'intense concentration de la magicienne, il se répondit par l'affirmative.
« C'est étrange, » continua-t-il.
« Imaginez que quelque chose puisse s'effacer en un clin d'œil d'une mémoire. Tu ne trouves pas ça bizarre, Nathan ?»«
Et comment ?»« Zed, tu as une idée pertinente ?»«
Je connais la cause du phénomène, si ça peut vous aider. »
Le vieux sorcier ponctua cette déclaration provocante d'un sourire patelin. Nietzsche remarqua que Rika, debout près d'une colonne, fit écho à ce sourire. D'abord pétrifié de surprise, Nathan semblait bouillir de curiosité.
« Vraiment ? »
demanda-t-il. Écartant Richard, il avança vers Zed.
« Que se passe-t-il ? Réponds, bon sang !»«
Le coupable est un asticot-prédictophage, tout simplement. Enfin, plusieurs asticots, probablement. »«
Un quoi ?»
demanda Nathan, pas certain d'avoir bien entendu.
« La disparition du texte est provoquée par un asticot-prédictophage, »
persista et signa Zed.
« Quand une fourche est infectée par ce fléau, l'asticot se grignote un chemin jusqu'au bout de cette ligne temporelle et il la consume en avançant. Puisqu'il détruit la prédiction, il tombe sous le sens que toutes ces manifestations, en particulier écrites, sont également détruites. L'infection est foudroyante. Nathan, si ça t'intéresse, je te montrerai les études de référence. »
« Je ne dis pas non, premier sorcier. »
« Zed, c'est très important, » intervint Richard. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»
Le vieil homme tapota gentiment l'épaule du sorcier.
« Quand tu es arrivé, mon garçon, tu n'avais guère envie de m'écouter. Un seul sujet t'intéressait, et tu insistais pour m'en parler. Puis... « certaines déconvenues t'ont poussé à t'isoler, comme si tu refusais de communiquer. »«
C'est assez bien vu, » admit Richard.
Il prit son grand-père par le bras et l'empêcha de s'éloigner.
« Zed, je dois te dire quelque chose au sujet de toute cette histoire et d'une certaine nuit. »«
Je t'écoute. »«
Je sais que les contradictions n'existent pas. »«
Je ne t'ai jamais vraiment soupçonné du contraire, mon garçon. »
Mais le soir de l'exhumation, cette leçon du sorcier n'était pas vraiment pertinente. Lorsque tu l'as mentionnée, tu pensais avoir raison, mais c'est une autre leçon que j'ai négligée. Celle qui dit que les gens ont tendance à croire un mensonge parce qu'ils redoutent qu'il soit vrai. C'est exactement ce que j'ai fait. Je ne croyais pas à une contradiction, mais simplement à un mensonge, parce que je craignais qu'il soit le reflet de la réalité. J'aurais dû soumettre mon raisonnement, si on peut nommer ça ainsi, à la leçon qui traite des contradictions et tout serait devenu limpide. Je ne l'ai pas fait, et c'était une énorme erreur. Je comprends très bien la façon dont tu as vu les choses, puisque tu ignorais tout ce qui était arrivé avant ce terrible soir, mais je n'aurais pas dû renoncer à chercher la vérité pour te faire plaisir, ou parce que j'avais peur que tu penses du mal de moi. »
Richard se tourna vers Nietzsche.
« Une précieuse amie m'a montré que je faisais fausse route. »
Le sourcier marqua une pause, puis il dévisagea de nouveau son grand-père.
Cela dit, la 9e leçon du sorcier est bien plus profonde qu'il n'y paraît, je m'en suis rendu compte. Elle signifie surtout qu'on ne doit pas défendre des valeurs ou viser des objectifs lorsqu'ils sont contradictoires. Par exemple, il ne faut pas porter au nu l'honnêteté et mentir sans vergogne aux gens. Et si on a la justice pour but, on ne peut pas refuser de juger les coupables et de les punir. Cette leçon est en fait au cœur de notre combat, car la vérité qu'elle énonce condamne inexorablement l'ordre impérial. Un système pareil n'est pas viable et c'est très facile à démontrer. Ces gens prétendent avoir l'altruisme pour valeur suprême. Ensuite, au nom de cet amour du prochain, ils contraignent des malheureux à se sacrifier, plus précisément à renoncer à leur vie et à leur libre arbitre. En fin de compte, ce n'est que du pillage organisé. Un ordre social conçu pour assurer le bonheur des voleurs et des assassins au détriment de leurs victimes dont tout le monde se fiche. Ériger ainsi la contradiction en mode de vie conduit inévitablement à la souffrance et à la mort, parce qu'il est impossible de militer vraiment pour la vie quand on est prêt à défiler sous la bannière de la mort. Z, cette leçon veut dire que je ne peux pas, imitant les fidèles de Jagang, prétendre désirer la vérité et gober tous les mensonges sans me poser de questions. Même la peur n'est pas une justification suffisante à pareille félonie.
Par paresse intellectuelle, j'ai moi-même violé la 9e leçon. J'aurais dû dépasser les contradictions et accepter de voir la vérité en face. Mais j'ai baissé les bras, renonçant à ce qui m'est le plus cher au monde.
« Mon garçon, coupa Z, dois-je comprendre que tu crois qu'il ne s'agissait pas de Callan Amnel ?»«
Quelle preuve avons-nous que ce cadavre est le sien ? Aucun fait n'est venu infirmer ma conviction première. J'ai cédé à la panique lorsque ce cercueil est apparu, voilà tout. »
« Richard, ton raisonnement est tiré par les cheveux, et sacrément, si je puis me permettre. »
« Tu es si sûr que ça ? Apprécierais-tu ma rationalité si je te disais que les prophéties n'ont jamais existé, en arguant en outre que les blancs dans les recueils prouvent que j'ai raison ? Pour toi, Z, croire aux prophéties malgré les passages manquants des livres n'est pas une contradiction ? Dans une position relativement confortable, tu suis les événements de loin et rien ne t'oblige à tirer des conclusions rapides des faits que tu analyses. Pareillement, rien ne te contraint à énoncer une opinion ou à atteindre une conclusion avant d'avoir obtenu les informations requises. Quel sourcier serais-je si je renonçais à jouer mon rôle dans le monde ? Comme tu me l'as répété si souvent, ce n'est pas l'épée qui fait le sourcier de vérité, c'est l'esprit, et tu le sais très bien. La lame n'est qu'un outil, c'est toi, Z, qui m'a enseigné cette profonde vérité. Pour en revenir à Callan, il reste beaucoup trop de questions sans réponse pour que je sois convaincu d'avoir vu sa dépouille dans un cercueil. Avant d'avoir obtenu une preuve définitive, je continuerai à chercher la vérité, parce que nous avons plus que jamais besoin de certitude en ces temps troublés. Je suis certain d'être le seul à mesurer la gravité de la situation, et le danger est imminent. J'ai peu de temps, et en plus de tout, il me faut retrouver une personne aimée qui a besoin de mon aide.
Z eut un sourire appréciateur. Une très jolie profession de foi, Richard. Mais bien entendu, j'ai besoin de preuves. Ne va pas croire que je suis prêt à boire tes paroles.
Je n'en attendais pas moins de toi. Pour commencer, il est plus qu'étrange, tu dois le reconnaître, que les prophéties tronquées aient un lien avec moi.
Tout le monde a oublié Callan, et les prédictions où elle aurait dû être mentionnée se sont volatilisées aussi. Tu ne trouves pas ça bizarre ? Parierais-tu qu'il s'agit de coïncidence ?
Nietzsche fut immensément soulagé de retrouver le Richard logique et combatif qu'elle avait toujours connu. En même temps, quelque chose la perturbait. Ce qu'il disait ne manquait pas de sens, et ça allait contre tout ce qu'elle avait cru ces derniers temps.
« Très finement raisonné, mon garçon !» s'écria Z. « Hélas, ta théorie a un trou !»«
Vraiment ? Et lequel, si je puis le savoir ?»«
Personne ne t'a oublié, pas vrai ? Pourtant, les prophéties qui te concernent ont disparu. Du coup, tu ne peux plus utiliser les blancs dans les textes pour prouver l'existence de Callan. » »«
Et pourquoi ça ?»«
Parce que j'ai enquêté sur l'altération des prophéties et fait des découvertes qui ne vont pas en ton sens. » N'oublie pas que je suis au moins aussi curieux et malin que toi, mon garçon.
Je n'ai jamais prétendu le contraire, Zed. Mais il peut exister un rapport entre les recueils à demi effacés et le destin de Callan.
C'est ce que tu aimerais croire, mais ton hypothèse ne tient pas parce qu'une multitude de faits ne la corrobore pas. Tu veux enfiler des bottes qui ont l'air confortables, mais en réalité, elles sont trop petites pour toi.
Zed tapota l'épaule de Richard.
« Quand nous irons ensemble à la bibliothèque, je te montrerai ce que j'ai trouvé. »«
Qui est Callan ? »
demanda soudain Nathan, tombant comme un cheveu sur la soupe. Richard riposta par une cataracte de questions.
« Anna et toi, savez-vous ce qu'est la chaîne de flammes ? »
La dame abbesse et son compagnon secouèrent la tête.
« Que vous disent une vipère à quatre têtes ? » ou un endroit nommé le profond néant.
Tout ça ne nous dit rien, Richard,
fit Anna.
Et tu m'envoies désolé. Mais puisque nous abordons des sujets fondamentaux, savez-vous que nous devons parler de choses très sérieuses?
Une fois que nous aurons vu le trésor de Z, dit Nathan.
Le vieux sorcier exécuta un demi-tour plein de majesté et s'éloigna à petits pas pressés.
« Qui m'aime me suive ?»
lança-t-il sans daigner se retourner.